Charles Ferdinand Ramu, Terre du ciel. 1. Alors, ceux qui furent appelés se mirent debout, hors du tombeau. Avec la nuque, ils ont fait aller la terre en arrière. Ils ont percé du front la terre comme quand la graine germe, poussant dehors sa pointe verte. Ils ont eu de nouveau un corps. Il y avait un grand soleil. Une grande, belle lumière est venue sur leurs mains, sur leurs habits, sur leurs chapeaux, sur leurs barbes, sur leurs moustaches. Et c'était tout près du village, là où autrefois on les avait mis, là où on les avait descendus avec des cordes, dans le nouveau cimetière et l'ancien, à côté de l'église neuve et de celle qui n'existait plus, parce qu'ils venaient de partout dans le temps. Ils se sont donc levés hors de leur trou. Le soleil leur est venu dessus. Ils voyaient le soleil avec leurs yeux retrouvés. Ils buvaient l'air avec une bouche retrouvée. Et d'abord, ils ont branlé encore un peu, pas solide sur leurs jambes. Puis elles se sont affermies. Alors, ils se sont avancés dans la direction du village, et chacun l'avait devant soi, car le village aussi avait été refait, avec son église refaite et ses maisons refaites, à la parfaite ressemblance de ce qu'elles avaient été, mais toutes neuves, toutes claires, en pierre et en bois, sous les toits d'ardoise. Chacun ayant sa maison de nouveau, chacun qui la cherchait des yeux parmi les autres. Puis, chacun retrouva la sienne et ils entrèrent dans leur maison. C'est ainsi que la vieille Catherine avait rencontré devant chez elle sa petite fille nommée Jeanne. Elle s'est arrêtée tout à coup, puis elle fit encore un pas, puis elle s'est arrêtée de nouveau. Elle n'osait pas y croire après qu'elle l'avait perdue. Elle n'osait pas y croire qu'elle pourrait jamais la retrouver, à cause que les malheurs vous rendent méfiants. C'était dans une petite rue pavée, montant sur le côté de la maison. Elle y était entrée par un bout, Jeanne par l'autre. Catherine l'avait vue venir. Elle ne bougeait plus. Debout au bas de l'escalier de pierre, menant à un perron d'où on entrait dans la cuisine, elle tenait croisée l'une sur l'autre ses longues mains, maigres, en bois brun. Et la petite Jeanne, elle, était venue en courant. Elle était venue d'abord si vite qu'elle pouvait, puis a été immobile, elle aussi. Mais parce qu'elle avait le cœur tout jeune encore, un cœur tout neuf et prêt à croire, pas le cœur trompé de plus tard, c'est elle qui est repartie en avant la première. Et le cri lui sort de la bouche. « Grand-mère, grand-mère, est-ce toi ?» Elle est venue. Elle s'est mise tout contre la grosse jupe à plis et le corsage de grosse laine, tout contre le coutil à rayures du tablier. Là, elle se lève sur la pointe des pieds, levant les bras, levant les yeux. « Grand-mère, c'est toi, je te reconnais. Et toi, tu ne me reconnais pas ?» Et Catherine hésite encore. Puis, elle n'a pas pu plus longtemps. Elle a penché sa vieille tête. Elle penche son dos, autrefois engourdi et raide, qui retrouve son ressort. Ses mains viennent, ses longues mains maigres. Ses mains s'avancent toujours plus. « C'est toi ? C'est toi, petite Jeanne ? Que oui, c'est toi ?» Et puis, comment est-ce que c'est possible? Mais Catherine a vu que tout était possible parce que plus rien n'était comme avant. Elles sont montées ensemble l'escalier. Elles sont entrées ensemble dans la cuisine. C'était une cuisine aux grandes dalles de pierre bien rejointées, avec un vaisselier de bois brun. Tout y était comme autrefois, mais en plus joli, en plus clair, en plus neuf. Tout y était comme repeint. On voyait briller les assiettes et les verres. Il y avait un bouquet de dahlias sur la table. La petite Jeanne a dit « Voilà des dahlias de notre jardin. » Catherine a dit « Est-ce que tu te souviens de notre jardin ?»« Oh oui, parce que tu m'y promenais en me tenant par la main. Et quand je suis devenue trop malade, tu m'y portais dans tes bras. » Je vois que tu te souviens. Elles s'approchèrent de la fenêtre ressuscitée. En ce jour d'été, ou ce jour pareil, un jour des étés d'autrefois, partout dans l'air, les abeilles avaient recommencé à se faire entendre, comme quand on bat à la mécanique. On voyait également que les fleurs fleurissaient partout, toutes ensemble. Il y avait sur les arbres à la fois des fleurs et des fruits. Ah, le temps d'avant, tant de l'autre vie, tant dur, tant cruel, difficile, injuste, parce que Catherine se souvenait. Elle retrouvait ces temps d'autrefois entre les touffes de hutons blancs, les gueules de loup, les campanules, les iris blancs, les violets, les fraises mûres et les fraises en fleurs, les buissons de cassis couverts de leurs fruits noirs et de grappes vertes, les mousses de toutes sortes et les ruines de Jérusalem. Elle ne pouvait pas ne pas penser à ce temps d'avant. La chambre était à peu près comme notre chambre d'à présent, mais là-dedans, en dedans de ces murs et en dedans de nous surtout. Elle faisait asseoir la petite Jeanne sur une chaise. Elle lui étendait un châle sur les genoux. Et c'était ces temps d'autrefois. « Petite, tu ne te rappelles pas, quand tu étais là et moi je venais, je me mettais tout à côté de toi, je ne te quittais plus, c'est toi qui me quittais. Chaque jour, et j'avais beau faire, chaque jour un peu plus, et j'avais beau dire et bien faire, j'avais beau supplier, j'avais beau te tenir serré, je n'ai pas été écoutée, tu es partie, tu m'as laissée. » Elle a secoué la tête. Comment est-ce qu'on y tenait? Ah, malheur et misère de nous, en ces temps-là, il fallait cependant qu'on s'attachât, et on ne pouvait pas faire autrement, ayant un corps, ayant un cœur construit en vue de ça, exprès pour ça, rien que pour ça. Construit uniquement en vue de ça, comme est le lierre, avec les mille petites mains et griffes du lierre, et rien que des mains. Mais nous aussi, c'était notre besoin. N'ayant pourtant non plus que le lisse et le nu, attachés à ce qui penchait, cramponnés à ce qui était chancelant, avec cette fin de durable en nous, et rien pour la faire passer que la négation du durable. Tout à coup, elle a dit « Petite !» Et puis l'a appelée, et elle disait « Toi, toi. » Elle ne disait rien. Elle disait « toi », ne disait rien et en même temps « toi », avec étonnement encore. « Toi, toi, est-ce vrai ?» Et encore une fois, « est-ce vrai ?» Mais c'était vrai. Deux. Ils avaient commencé à faire connaissance. Ils allaient en visite, les uns chez les autres. Ils se racontaient chacun son histoire. Les jeunes allaient de préférence avec les jeunes, les vieux avec les vieux. Les femmes, comme autrefois, se retrouvaient à la fontaine. On se parlait de nouveau par-dessus les barrières en bois des jardins. Et le soir, ils venaient s'asseoir à trois ou quatre devant les maisons, les mains sur les genoux, fumant des pipes. Justement, le vieux Sarment, un de ses premiers soirs, a été là, avec deux ou trois autres hommes, à peu près de son âge. Il a parlé dans le rose, il a parlé dans le gris, puis il a parlé dans le noir. Il disait « Il me semble que le dos me fait mal encore des fois. Il me semble que j'ai encore les jambes raides le matin quand je me lève. Oh, je sais bien que ce n'est qu'une imagination. Mais ne faut-il pas que la chose même soit entrée profond et qu'on l'ait eu marquée avant sous notre peau pour qu'elle y dure, malgré tout? 60 ans et plus, autrefois, quand il y avait encore des années, et on n'était pas encore guéri du temps. Il avait semé, fauché, moissonné, labouré, sarclé, taillé, fait son bois. Il avait porté le fumier. Il avait travaillé ses vignes. Et maintenant encore, tout en parlant, il faisait parfois un mouvement avec les épaules, comme quand il portait la hotte. Un mouvement en avant avec les mains, comme quand il les croisait sur le manche de l'outil. De temps en temps, il lui arrivait d'allonger les jambes, tantôt l'une, tantôt l'autre, les dégageant avec peine de dessous lui, et il crachait. Il taisait difficilement un soupir que l'habitude faisait venir sous sa moustache blanche. Parce que c'était dur dans ce temps-là pour nous. Il fallait se lever à 4 heures du matin pour ne se coucher qu'à 10 heures, quand il y avait encore des heures. Maintenant, l'horloge ne sonne plus que pour faire joli dans l'air, agitant là-haut sa clochette, comme quand la vache se frotte le cou à un tronc. Mais avant, vous souvenez-vous? Elle venait comme un commandement, elle vous tirait du lit, vous jetant dehors par les plus grands froids, sous la pluie comme sous la neige, et dans l'épaisseur de la boue, comme sur les chemins que la glace rendait brillants, quelque fatigue qu'on ressentit. Car on ne faisait rien à sa guise. On faisait non ce qu'on voulait, mais ce que les choses voulaient. On faisait, c'était des faits, et il fallait recommencer à faire. Et on refusait, et c'était des faits. Vous souvenez-vous? Les autres ont hoché la tête. C'était sous un ciel et jaloux. C'était contre toute la nature. C'était contre la terre fâchée qu'on la toucha, contre la plante ayant ses idées, contre les animaux, contre les hommes, tous ennemis les uns des autres, jaloux les uns des autres, et en guerre toujours entre eux. L'homme ennemi des animaux, les animaux ennemis des animaux, la plante ennemie de la plante, et partout la destruction d'une chose par sa voisine, de sorte on devait tout le temps réparer, tout le temps se défendre, et on passait son temps à s'empêcher soi-même d'être détruit. Oh, c'est vrai, continuait Sarment, rappelez-vous, parce que venaient les gelées, ou venait trop de pluie, ou pas assez de pluie. Jamais la quantité de rien, juste ce qu'il en aurait fallu. Alors on s'empêchait de mourir, et c'est tout. Puis il fallait mourir quand même. Oh, du prix! Et produit a levé la tête, il a dit « Même ce qui était bon trompait. » Il s'est tourné vers Sarment. Il reprenait, car il n'y avait rien qui fût bon jusqu'au bout. Rappelle-toi le goût du vin. Il était alors vigneron, et il était connu loin à la ronde pour la qualité de son vin. C'était juste au moment où on commençait à en sentir le goût qu'il passait. Il vous glissait sous le palais. On aurait voulu l'arrêter. Et puis, il était déjà loin. On ne buvait jamais alors qu'il ne fallut reboire. Il fallait recommencer à boire. Et de nouveau, le goût vous fuyait, sans qu'on pût le saisir, tandis qu'on lui courait après inutilement. Et tout était comme le vin, parce qu'aucune chose n'était complète. Aucune chose n'était terminée pour nous. Aucune chose ne trouvait nulle part son aboutissement. De nouveau, tous ont dit, c'est vrai, assis sur le banc pendant qu'on passait dans la rue. Ensuite, ils se sont regardés, s'étonnant d'être encore ce qu'ils avaient été, et en même temps, autre chose. Il commençait à y avoir de la lune. On a vu passer Adèle Genoux qui leur a dit bonsoir. Ils ont dit bonsoir à Adèle Genoux. Et un peu plus loin, il y avait la boutique de Chemin le menuisier. Ils l'ont vu, sous la lune, s'arrêter devant la boutique. Ils l'ont vu entrer dans la boutique. Elle disait à chemin, « Comment est-ce que je suis ici, moi ? Comment est-ce que c'est possible après ce que j'ai fait ?» Elle aussi dans un grand étonnement. « Mais chemin, tout est possible. » Elle s'est mise à dire alors, « C'est que je l'aimais trop, ce petit, et pas de la bonne manière. On ne savait pas aimer comme il faut dans ce temps-là. » Je me suis dit, « Je ne veux pas qu'il soit malheureux. » La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il fallait l'empêcher d'avoir à souffrir ce que j'avais souffert. Je l'avais sorti de son petit lit bien chaud. Je l'ai pris contre moi. Est-ce que vous comprenez ? Il n'avait pas de père. Les promesses coûtaient peu aux hommes dans ce temps-là. À quoi bon qu'ils vivent, je me disais, si c'est pour être malheureux, pour être abandonné de tout le monde, comme j'ai été moi-même, être montré du doigt comme j'ai été montré, être ri des autres et moqué. C'est parce que je l'aimais bien. Il n'aura connu que la douceur. Il aura connu seulement d'être tenu contre mon sein qui est rond et chaud et qui est à lui, Pierre Chemin. Pierre Chemin fumait sa pipe. Elle l'appela de nouveau. « Pierre Chemin !» Mais lui, allez toujours. Il faut faire tomber de soi les mauvais souvenirs, comme l'arbre ses fruits véreux. Justement, la lune venait de sortir. Il y avait la même lune qu'aujourd'hui, mais pas si belle. Je suis descendue le chemin. À un moment donné, je l'ai vue se tenir au fin bout d'un arbre pointu. C'est une file de peupliers qui est au bord de la rivière. J'étais arrivée. Je m'étais assise dans l'herbe. J'avais oublié pourquoi j'étais là. Oh, comment est-ce qu'on était faite, dites-moi, Pierre Chemin. Comment est-ce qu'on était faite dans ce temps-là, qu'on pût changer si vite et si complètement. À présent, je ne voulais plus. À présent, j'étais bien. J'avais oublié pourquoi j'étais là. Il tenait ses petits yeux si bien cachés sous ses paupières, et on voyait sous ses paupières leur bombement. Je lui avais mis ses plus belles choses. Je pensais, il est bien joli. Il sera brun de peau et noir de cheveux comme je suis. J'étais fière de lui d'avance, parce que les années vont vite, et encore pas beaucoup de temps, et il serait plus grand que moi. Tout à coup, il s'est mis à pleurer. Je n'ai eu qu'à ouvrir mon caraco, il s'est tu. Je continuais d'être heureuse. Il se faisait un mouvement doux dans sa bouche, et un petit bruit aussi s'y faisait, comme pour me dire merci. L'une de ses joues était plus rouge que l'autre. Tout son petit corps redevenait rond et se regonflait sous la peau. Plus rien que lui, parce qu'il était là, et plus rien que le bonheur de l'avoir là, le voyant plein de force, et moi aussi j'étais pleine de force. Il a mangé tant qu'il a voulu. Ce n'était pas la nourriture qui manquait. Après qu'il a eu fini, il m'a regardée. Je me tenais penchée sur lui. Mais parce que rien dans ce temps-là n'était durable, ce faux bonheur, lui non plus, n'a pas pu durer. J'ai revu mon malheur écrit sous la lune, et mon malheur était le sien. Et lui, qui était innocent, allait être puni à cause de moi. J'ai vu qu'il y allait y avoir pour lui aussi les hommes, et ils seraient ses ennemis comme ils avaient été les miens. Et j'ai cru que c'était mon amour qui parlait. Parce que je ne savais pas bien ce que c'est, et personne ne le savait en ce temps-là sur la terre. Je me suis dit, voilà qu'il dort, il ne se doutera de rien. Il passera seulement de son rêve à un plus grand rêve. Je l'ai bien embrassé et réembrassé, bien serré encore une fois contre moi. Je lui ai chanté la chanson qu'il aimait. Je me suis levée. Je lui ai dit adieu. J'ai détourné la tête, j'ai fait un grand mouvement de côté avec les bras. Et il n'y a plus rien eu, sauf qu'à la place où je l'avais tenu, J'ai senti venir un grand froid, comme si tout l'air de la nuit et la grande bise entraient par le trou. Elle s'était interrompue, et de nouveau, « Pierre Chemin, comment est-ce qu'on était faite, dites ? Pourquoi est-ce que je suis là ?»« Mais Chemin, c'est le grand secret. » Et comme les gens passaient toujours, c'est à eux qu'elle s'est adressée. « Et vous, savez-vous pourquoi ?» Ils s'arrêtèrent dans la lune, devant elle, sur le petit pavé pointu, tout parsemé de brins de paille qui brillaient. Il disait, comme Chemin, « C'est le grand secret. » Mais alors, elle s'est levée. Elle a dit, « C'est que vous ne savez pas tout. » Elle s'était levée, elle est rentrée chez elle. Quand elle revint, elle tenait en travers de son corps, dans ses deux bras, un paquet rose. « Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ?» On disait que oui. « Eh bien, c'est lui. Je l'ai de nouveau. Je l'ai retrouvé. » Trois. Ils étaient dans les 300 d'entre les milliers qu'ils avaient été. Ils ont été dans les 300 qui avaient été rappelés sur cet étage de montagne, refait pour eux à l'image d'avant. Sur ce dessus de marche d'escalier, qui semble avoir été taillé exprès dans la pente, pour que le village y soit bien à plat, et pour que du temps où ils y couchaient leurs morts, et puis ils y étaient couchés eux-mêmes, leurs morts et eux-mêmes y fussent couchés bien à plat. Les toits étaient restés couverts de leurs tuiles de bois, de leurs feuilles d'ardoise grises. Comme autrefois ils se tenaient serrés autour de l'église, ils se serraient étroitement autour du haut clocher de pierre, pareils à des moutons autour de leur berger. Il y avait déjà tant de beauté dans cette terre d'autrefois que celle d'à présent n'avait pas pu ne pas lui ressembler. Elle fut tout d'abord apparue non changée pour quelqu'un qui serait venu, qui aurait grimpé le chemin, à part la qualité de l'air et la beauté de la lumière. Quelqu'un qui serait monté le chemin raide, puis brusquement la pente cesse. On ne voyait rien, tout à coup on voit tout. Mais de toutes les saisons, la plus belle seule était demeurée. Ils allaient maintenant à leur champ en tout temps, dressant en tout temps les javelles, qui semblent des petites femmes à grosses jupes causant par groupes dans les champs. Il y avait l'hiver autrefois. Il y avait l'hiver où on était malade, l'hiver lui-même étant une saison malade. Maintenant, il n'y avait plus d'hiver. Il ne travaillait plus, comme autrefois, par nécessité et forcé, et seulement pour ne pas mourir. Il travaillait maintenant pour le plaisir. Il travaillait pour mieux se dire. Ils venaient avec leurs gestes dans l'air, comme quand à une note, on ajoute une note. À présent, tout était musique. Ce qui se parle, ce qui est dit, ce qui se fait, ce qui est fait, ce qui est agi, ce qui est pensé. La terre était si belle, noire, qu'il n'y avait plus besoin de fumier. Celui-ci, qui plantait un arbre, n'avait eu qu'à faire un trou, puis, tenant l'arbre par le milieu du tronc, pas plus gros encore qu'un manche d'outil, il la confiait à la terre, telle qu'elle nous avait été redonnée. Des hommes passaient, ils ont regardé. Il y avait le vieux Sarment, il y avait Bonvin le chasseur, il y avait Maurice le chercheur d'or, il y avait Produit. Ils se sont arrêtés, ils disaient « Bonne terre !» Et l'homme, tenant son arbre de même, « Bonne terre !» C'est qu'il est facile de vivre à présent. On est tous des amis, on n'est plus tous ensemble qu'une grande bande d'amis. Ils avaient repris leurs anciens métiers et ils faisaient chacun le sien, mais ce n'était plus par nécessité. Tandis qu'on goûtait sous les arbres, et les femmes à 4 heures apportaient comme avant le goûter des hommes, et sortaient les tasses, ôtaient le couvercle du bidon où il y avait le café au lait. Puis à leur tour, elles étaient assises, parmi leurs jupes, dans l'herbe fleurie de marguerites, de boutons d'or, d'anémones, de crocus jaunes ou blancs ou mauves, de colchiques, toutes les fleurs en même temps. Dans l'ombre, percée de trous par le soleil comme une éponge, quelques-unes, la tête appuyée à un tronc, la tête de côté contre l'écorce, et alors le chignon allait lui aussi de côté. Le chignon noir à tresses très serrées, où est enfoncé un peigne de cuivre. On a le temps, rien ne nous menace plus. Elle restait là tant qu'elle voulait. Puis, quand elle voulait, elle rentrait chez elle. Et de nouveau, elle se tenait dans leur cuisine, mais où également était pour elle le bonheur, à cause du joli de tout, à cause du bien lavé de tout, à cause du bien rangé de tout. Quand de nouveau le soir venait, puis on a entendu le cornet de Thérèse Main, la gardeuse de chèvres, descendant de la montagne avec son troupeau. Chaque soir, au moment d'arriver au village, Thérèse soufflait dans son cornet de cuivre, et chaque matin, avant de le quitter, dans son même cornet de cuivre, afin qu'on amenât les bêtes ou afin qu'on va les chercher. Chemin, le menuisier n'avait plus de cercueil à faire. Il faut noter encore ce grand changement qui est qu'il n'y a plus ces vilaines planches à clouer, comme autrefois quand la cloche des morts sonnait. Alors, les gens se disaient l'un à l'autre, « Tu as entendu ?» Et c'était un fils ou un frère ou un père, quelquefois un simple cousin. Il venait chez Chemin, il heurtait. Tu peux seulement y aller ? Chemin demandait comment est-ce qu'il était déjà ? Ne l'as-tu pas connu ? Ni grand, ni petit, ni trop gros, ni tant maigre. Bon, je vois. Mais des fois aussi, il faudrait que j'aille prendre mesure. Il allait. On lui disait entrez seulement, monsieur Chemin. Il se frottait les pieds sur le racloir, il ôtait son chapeau. Mise debout contre les chaises, il y avait des couronnes en perles de verre. Il faisait sombre à cause des contrevents fermés. Chemin sortait son maître de sa poche, il l'appliquait contre le lit. C'est cet allongement qui trompe, vu que nous paraissions plus longs une fois couchés que debout, plus longs encore dans l'autre vie. Lorsque couché de cette façon-là. Chemin remettait son maître dans sa poche. Il disait « Je vois ce qu'il faut ». Il parlait bas, il rentrait chez lui. Il faisait généralement froid avec un ciel gris, parce que généralement c'était l'hiver. C'était surtout ces mois de février et de mars. Alors il y avait jusqu'à 2 morts par semaine. Ayant tenu tout le commencement de l'hiver, ayant tenu contre novembre, contre décembre, contre janvier, ayant encore passé le 1er de janvier, ayant encore pu ajouter tout juste une unité au chiffre de leur âge. Et puis ça n'allait plus, ça devenait trop lourd, on se disait tant pis, on se laissait aller. Car ils étaient trop longs, ces hivers de la terre, pour le peu de force qui restait aux vieux. Et alors, 4 ou 5 en février, 3 ou 4 en mars, les chemins allaient prendre mesure. Comme il habitait non loin du cimetière, il les voyait ensuite tous passer. Comme il les avait donc habillés, leur ayant coupé ce vêtement qui est un vêtement de dessus et de tout dessus, et il ne nous en fallait jamais qu'un, étant une espèce de tailleur dans ce temps-là, il disait « Je suis une espèce de tailleur, moi. Généralement noir, ce vêtement en dure étoffe de sapin. Et derrière, allant lentement, les chapeaux de soie, les redingotes mises aux noces, mises au baptême, mises aux premières communions, tirées de leur armoire, frottées et brossées, reposer les chapeaux sur des têtes devenues trop petites ou remises les redingotes autour de ventres trop gros. Alors, chemin ôtant sa pipe de sa bouche, se retirait par respect dans le fond de l'atelier. Une fois, 10 fois, 30, 50, 200 fois, 300, 400 fois. C'était quand il y avait encore l'obligation de mourir. À présent, point final, disait Chemin, point de la fin de la phrase, point de la fin du paragraphe et du livre. Et le livre à présent, lui-même fermé ou quoi? Plus de ces vilaines planches à clouer. Il prenait un petit pot de couleur, il prenait un autre petit pot de couleur. C'était une belle couleur jaune, une belle couleur bleue, une belle couleur rose dont il prélevait un petit peu avec le bout de son pinceau. Il faisait aussi des coffres à habits sur lesquels, par des applications de minces épaisseurs de bois de teintes différentes, il représentait un cœur ou des vaches ou un bouquet dans un vase, rien que la date de l'année qui manquait. Sur la grande double porte des armoires, de celle que dans l'autre vie on donnait en cadeau aux jeunes mariés, c'étaient des guirlandes de fleurs des champs. Chemin, tout le jour, taillait dans le bois ou maniait le pinceau. Ses autres faisaient leur foin ou faisaient la vendange, fauchant, moissonnant, vendangeant dans le cours de la même journée. Et aux 12 heures du soir, quand il revenait, c'était en huchant, la voix poussée à plein entre leurs mains d'une pente à l'autre. La voix allant au loin par-dessus les creux et les combes, d'un versant à l'autre versant. Après qu'ils avaient moissonné, vendangé, fauché, et ils revenaient en huchant. Pierre Chemin alors se disait « c'est l'heure ». Il posait sa varlope, il tirait de sa poche un paquet de tabac enveloppé de papier brun, qui est un tabac fort de goût. Thérèse Main rentrait avec ses chèvres. Elle serrait son tricot dans un petit sac. Elle soufflait dans son cornet de cuivre. C'est ces 12 heures du soir que chaque jour ramène dans du rose, dans du doré, dans le sang bon des chemins. Des portes s'ouvraient, se fermaient. Les petites filles allaient chercher les chèvres dans le parc. Pierre Chemin fumait sa pipe devant chez lui. Et tous ceux et toutes celles qui passaient, se regardant, semblait dans ce regard se dire « on a tout, on est bien, n'ayant plus d'autre pensée. » Jusqu'au mulet à petits sabots fins, à gros ventre, une paire d'énormes souliers à clous, les semelles en l'air sur le bas, ces bêtes autrefois peu commodes, qui montraient à présent une grande docilité, se déplaçant d'un pas égal sous leur belle robe luisante. Et on entendait leurs petits grelots se rapprocher, puis s'éloigner entre les barrières des jardins. 5. Il y avait aussi Fémie. Elle allait et venait dans son jardin. Elle n'aimait rien tant que son jardin, quand c'était encore l'autre vie. Pour être plus sûre d'avoir des fleurs à son idée, elle récoltait elle-même toutes ses graines, dont elle faisait des paquets, écrivant dessus le nom au crayon. Il lui fallait s'appliquer grandement, étant bien loin du temps où elle allait à l'école. Mais avec de la persévérance, elle y arrivait pour finir. Déjà dans l'autre vie, elle écrivait les noms au crayon sur les paquets en tirant la langue. Elle écrivait « Reine Marguerite ». Souci, œillets sur les paquets. Après quoi, elle les enfermait dans une armoire. Et voilà qu'à présent, elle avait recommencé à écrire les noms. Elle écrivait de nouveau « Souci, œillets ». Hélas, dans l'autre vie, ce jardin auquel elle tenait tant lui avait été repris à cause d'un grand-fils qu'elle avait. Dans l'autre vie, où rien n'était solide, il lui avait fallu un jour tout vendre, car alors rien ne pouvait durer. Il lui avait fallu, bien que déjà vieille, tout quitter et se mettre en place, ayant eu à payer les dettes de ce fils. Elle avait été vivre chez les autres, travaillant pour les autres malgré son âge, durement. C'est chez les autres qu'elle était morte. Elle se souvenait encore du matin où elle n'avait plus pu se lever de ce lit pas à elle. Elle se souvenait qu'elle avait vainement cherché à se tenir debout dans la pauvre petite chambre froide où un mauvais falot tempête fumait sans éclairer. La tête lui avait tourné. Et puis plus rien. Et du temps qui avait passé, beaucoup de temps peut-être, elle se demandait elle aussi combien de temps. Elle ne savait pas, mais ce qu'elle voyait à présent, c'est que son jardin lui avait été rendu. Et ce qu'elle voyait, c'est qu'elle n'avait plus rien à craindre, elle non plus, des hommes, ni des choses, étant désormais à l'abri du mauvais temps, de la grêle, des gelées, de toutes les tristesses, de toutes les espèces de morts. Le mur gris au crépi tombé, où s'accrochaient des touffes de quarantaine, avait reparu devant elle. L'arrosoir peint en verre était posé de nouveau au milieu de l'allée. Tous les petits objets dont elle se servait lui avaient été rendus. L'arrosoir, le sarcloir, le petit râteau de fer, la pelle à fossoyer à la lame toute usée, le plantoir de bois dur, le cordeau avec quoi on trace les sentiers, le corbillon d'osier non écorcé, le vieux couteau à arracher les mauvaises herbes. Et elle, joignant les mains, « Mon Dieu, l'ai-je vraiment mérité ?» Parce qu'elle était humble de cœur. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait pour que j'aie été rachetée et que j'aie revu la lumière ? Comme qui aurait fait dans la semaine un petit voyage, et ensuite serait venu un beau dimanche pour toujours. C'était même tellement beau que, comme Catherine, elle n'y avait pas cru d'abord. Mais une abeille s'était approchée d'elle, lui racontant quelque chose. Une fourmi ailée se posa sur sa manche. Une femelle merle courait sur le faîte du mur, comme un rat. Il lui avait bien fallu y croire. Avec son corps habitué, son corps resté cassé en deux par le continuel penchement d'autrefois, elle allait de nouveau le long des résédas à petites fleurs grises. Les soucis poussaient de rue. Les œillets de poète avaient extraordinairement élargi leur touffe. Les cœurs de vieilles filles, frêles et de couleur claire au bout de leurs tiges, pareilles à des fils, lui venaient jusqu'à la ceinture. Et avec tout cela, pas une mauvaise herbe, point de ces tristes dégâts d'insectes, quand ils viennent scier les racines ou ils font des trous dans les feuilles, tandis que la limace laisse, où elle a passé, un ruban d'argent. C'était sur le devant de sa maison, entre deux murs. Le jardin était en pente. L'eau d'une rigole venait remplir dans le bas une fosse creusée là exprès. Elle avait été y plonger l'arrosoir. Elle revint qui le portait. Et sous l'arrosement, la terre faisait un petit bruit, comme quand le chat boit. VI. Il travaillait. Chemin travaillait dans son atelier. La porte de son atelier était une porte vitrée. Chemin regardait par la porte. Chemin regardait à travers la vitre, derrière la vitre, la vie se faire. Chemin était heureux. Il peignait sur le panneau de devant d'une grande armoire des gens heureux. Le tableau de Chemin représentait notre bonheur. Le tableau nous représentait comme nous étions à présent. C'est-à-dire que tout était beau dans son tableau. Il mettait ses couleurs sur un morceau de verre qui qu'il posait au bord de son établi. Et ayant tiré son armoire dans le bon jour, il allait du morceau de verre à l'armoire avec son pinceau, prenant du bleu, du rose, du vert tendre, regardant à travers la vitre comment c'était, ramenant les yeux sur son ouvrage pour y mettre comment c'était. Pendant ce temps, dans le haut du village, là où avait été le cimetière, un homme était encore tenu sous les bras par deux autres, et les deux autres lui disaient « C'est là qu'on t'avait mis en garde, regarde. Mais toi aussi, tu en es sorti. Tu es sorti de ton trou, comme nous. » C'était un homme ébé. Dans l'autre vie, il était aveugle. Dans l'autre vie, il était né aveugle. Il était mort aveugle. C'est pourquoi, à présent, il devait apprendre deux fois à voir. Les hommes le tenaient chacun sous un bras. Par moments, B s'arrêtait. Il restait immobile comme quelqu'un qui a de l'asthme. Ils étaient deux à le tenir, chacun d'un côté, c'est-à-dire François Besson et Henri de la cuisine. Et de la cuisine, ça ne va pas, B? Lui, tenez-moi seulement, c'est ça. Puis il est reparti. Il tenait les yeux fermés. Tout à coup, il les a rouverts. Il disait, et cette tache blanche? C'est chez Produit, c'est le mur de l'écurie à Produit. Et B s'est mis à tendre la main vers la chose, comme pour la prendre. Tandis que les deux autres riaient en disant, tu ne peux pas, voyons, c'est trop loin. Alors, il a refait un petit moment sa nuit, comme quand on rentre dans sa maison pour se reposer. Il s'était mis cependant à aller, et ça faisait... Il s'était mis cependant à aller, et ça se faisait peu à peu. Il ne soulevait encore que légèrement et avec précaution sa paupière, faisant une petite provision de choses, puis laissant sa paupière retomber. Il ne laissait entrer que peu de choses à la fois, ayant d'abord à les mettre en ordre. Mais voilà qu'il a rouvert quand même les yeux. Alors, de nouveau, les choses venaient pendant qu'il marchait entre les deux hommes. Il a connu le blanc, le noir, le laiteux, le rose, quand c'est beau vert ou quand c'est beau jaune. Et c'est comme du vin vieux. Les couleurs de toutes les choses et les choses qui sont dessous étaient habillées de couleurs et n'étant connues que par leurs couleurs. Il a dit, je crois que ça y est. Il s'était arrêté de lui-même. Besson, je vois. De la cuisine, je vois. Je te vois, Besson. Il se tourne vers Besson. Tu es là, je te vois, de la cuisine. Il se tourne vers de la cuisine. Alors il se tourna vers en avant, et en effet ses paupières se sont levées tout à fait de dessous le globe pâle encore, comme les plantes qui ont poussé à l'ombre, et les germes des pommes de terre qu'on a tenues longtemps enfermées dans la cave. Elles ont battu, comme le papillon bat de l'aile quand il va s'envoler. Puis, ça y est. Ça y est. Mais de nouveau. Et ça qu'il disait. Ça, c'est l'air. Et ça qu'il disait. Ça, c'est le rocher. Il a réfléchi. Il a hoché la tête. Il a dit oui. Il a dit non. Puis, que si, mon Dieu, tout ça. Est-ce qu'il est possible que tout ça soit le moi? Se mettant alors à tendre les bras, à les ouvrir tout grands, comme quand on voit venir quelqu'un. Et alors, en effet, ça se mit à venir, ça venait, et il prenait ça, et il serrait vite contre lui, ça, Un paquet d'air ici, un paquet de distance, un autre paquet de distance, un mur, encore un mur, une maison en bois brun, une qui est rose, puis plus à gauche et plus en arrière, les prés, les champs, les bois, ces carrés verts, ces carrés gris, ces carrés jaunes, du brillant, du pas brillant. Prenant ça pêle-mêle, avec encore du ciel et de l'air, prenant tout ça entre ses bras. Alors un petit peu de fatigue de nouveau. Il ferme les yeux. Il se repose. Puis, les bras tendus de nouveau. Et pendant ce temps, un grand silence. Après quoi, j'y suis. Il a laissé retomber ses bras. Il était devenu sérieux. Parce que, se mit-il à dire, c'est qu'on est presque trop riche. Jamais je n'aurais cru qu'il pouvait y avoir tant de choses que ça. Ah, dit de la cuisine, c'est qu'en effet il y en a. Il s'était mis à les nommer abbé. Il les lui apprenait ces noms, comme quand on apprend l'ABC aux enfants. Les petites fleurs des murs, jaunes et violettes. Les petites fleurs des murs, bleues de ciel et tachées de blanc. Les différentes espèces de fleurs. Le brun du drap du pantalon, qui n'est pas dans la nature. Le gris de ma manche, le blanc de ma chemise blanche. Et puis ça, a dit encore de la cuisine, ça, c'est du bois de barrière. Tu as connu ça avec les mains autrefois. Eh bien, voilà ce que ça donne pour les yeux. Et ça, c'est la plus dure de toutes les espèces de pierres. C'est du granit. Tu vois là, ce gris. Et dedans, c'est plein de petits cristaux blancs. À présent, B gardait les yeux grands ouverts. Il ne les a plus refermés. Il avait demandé à de la cuisine et à Besson de le lâcher, qui lui avait dit « Tu crois qu'on peut ?» Puis il avait lâché quand même. Et ainsi, il allait tout seul. Ainsi, ils avaient fait retour, ayant maintenant le village devant eux. Et B voyait venir, parmi le monde, ce petit monde, parmi les autres morceaux du monde, ce tout petit morceau du monde pendant qu'il allait tout seul. Et c'est à peine si, de temps en temps, par habitude, il tendait encore la main, tâtant l'air. À peine si, de temps en temps, son pied, avant de se poser, interrogeait encore le sol. Ils sont entrés dans le village. On disait « Alors, ça va mieux ?»« Ça va tout à fait bien, » disait B. Et de la cuisine. « Vous voyez, on l'a lâché. » S'écartant pour mieux vous le faire voir. Et Besson alors faisait de même. C'est de la sorte qu'ils sont arrivés devant l'atelier de chemin, où on voyait chemin à travers la porte vitrée. Et on voyait aussi le tableau de chemin. Besson et de la cuisine ont eu tout à coup une idée. Ils ont dit à B. Ah, voilà qui va t'intéresser. Hé, chemin, est-ce qu'on peut entrer? Et ils entrent, disant à chemin. Tu comprends, ils commencent seulement à voir. Et il n'a vu encore que les choses qui existent en réalité. Alors, lui faisant une place, « Arrive, B, mets-toi ici. » Parce que c'est encore une chose à apprendre, ça n'existe pas véritablement. C'est de la peinture, c'est peint. Ça n'existe pas dans la nature. Ça existe dans le cœur de l'homme. C'est tiré par l'homme de son cœur d'homme, porté dehors par ses mains d'homme. Alors, est-ce qu'il allait s'y reconnaître, B? Qui, en effet, pendant un moment n'a rien dit, pendant un moment n'a pas bougé, pendant un moment est resté immobile, laissant voir seulement un grand étonnement, avec aussi les marques de l'effort qu'il faisait. Puis, lentement, ses lèvres se sont écartées, et il y a eu une distance entre ses lèvres. Ça, c'est toi, chemin. Il regardait chemin. Il regardait le vrai chemin, puis le chemin figuré. C'est toi. Chemin hocha la tête. Et là, c'est une maison. Il l'a touché du doigt. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est la fontaine. Il vous a interrogé du regard. On hochait encore une fois la tête. Et lui, encouragé. Ça, c'est des gens sur des bancs. Ça, c'est une petite fille. Ça, c'est un mulet. Oh, je comprends. Je comprends tout. Alors, ceux qui étaient là lui ont serré la main. Puis, ils sont sortis, tous les quatre, pour aller boire. Le café s'appelait le Café des Amis. Il y avait sur l'enseigne ce nom et sous le nom deux mains qui se serraient dans des manchettes de dentelle. Et de nouveau, c'était peint, ce qui fait que B a eu encore un peu d'hésitation, mais déjà, il avait repris « que si, je suis guéri ». Une autre voix, alors, s'est fait entendre. « Moi aussi, je suis guéri ». C'était Cher Mignon. On lui avait, dans l'autre vie, coupé la jambe. Il venait. Il vous faisait voir qu'il avait de nouveau ses deux jambes. Il les faisait bouger, l'une après l'autre, dans le pantalon de grosse mylène brune, jaunie aux genoux, ayant les pieds dans des souliers ferrés à œillets de laiton. Et puis encore, qu'elle n'est pas fausse, et il riait. Quand même, ils étaient arrivés à la perfection dans ce genre de jambes fausses. Souvenez-vous, après leur grande guerre, il m'en avait mis une de cette espèce. Mais à présent, c'est de la viande, de la bonne viande, de la toute vraie. Si vous voulez voir, disait-il encore, et il troussait son pantalon. B voyait. Cher Mignon avait ses deux jambes et criait à B, « Je marche sur mes deux jambes. » Tandis que B lui répondait, « Je vois avec mes deux yeux. » Et parce qu'ils venaient ainsi, chacun avec son histoire, Maurice, le chercheur d'or, qui était assis dans un coin, a commencé à raconter la sienne, étant également guéri d'une maladie qu'il avait. Moi, disait-il, je cherchais l'or à la baguette, parce que je croyais que c'est l'or qui donne le bonheur. On allait se promener dans les endroits où l'on pensait qu'il y en avait. La baguette doit pencher plus ou moins, selon la plus ou moins grande force de ce qui l'attire. Et un jour, mon frère, qui tenait montagne auprès des rochers du Bise, ayant trouvé une pierre brillante, l'avait écrasée sous une autre pierre, ce qui avait donné la valeur d'une cuillère à café de poudre jaune, qu'il me montra. Alors je me dis, ça en est. Il faut vous dire que j'avais le don. Je sais à présent que c'est un don qui nous venait du diable. Mais en ce temps-là, je ne savais pas. J'ai dit à mon frère, « Me montrerais-tu la place, on partagera ?» C'est l'histoire de quand on allait chercher l'or dans l'autre vie, à cause qu'on ne savait bâtir que sur les biens passagers. On est parti de nuit, on est allé plus haut que les bois, plus haut que l'herbe, et toutes ces richesses données par le bon Dieu, on les a laissés derrière nous, pour ne plus être entourés si loin qu'on pouvait voir que par rien du tout de bon. Semez-y le blé, vous verrez. Essayez d'y planter les pommes de terre. Mauvais pays, pays maudit, pays mis justement par le bon Dieu, plus haut que l'autre, et pas à portée. Mais on était tenté par le démon. Le soleil s'était levé. On suait à grosses gouttes. C'était ce grand pierrier, vous savez, qui est droit au-dessus des rochers de Bise. Et plus on monte, plus il devient raide. Pourtant, on allait toujours. De temps en temps, je disais à mon frère, « Est-ce là ?» Il me répondait, « Pas encore. » On a fini par arriver au pied des rochers. Il y avait sur ces rochers des taches de rouille. Et rien n'a plus compté pour moi que ces taches. Il faut vous dire que les métaux s'appellent l'un l'autre. Et par le moyen de ce fer que je voyais qui était là, l'or à nouveau me criait contre. Je vous parle de ces temps de la terre où le cœur nous allait par bon. Ah, misère, misère et folie. La paroi avait bien 600 ou 700 pieds de hauteur, lisse par place comme la main. À d'autres, toute couturée, avec des ressauts, des couloirs, des corniches, des cheminées. Ça ne faisait rien. Jean me suivait sans rien dire. On se comprenait, sans rien se dire. Il était déjà convenu entre nous, sans qu'on se fût rien dit, qu'on irait jusqu'au bout et par tous les moyens. Il a fallu se pendre par les mains et la pointe de la semelle, se pousser vers en haut du dos et des genoux, comme le ramoneur, être parfois sur des surplombs pas plus larges que le pied, après quoi s'accrocher à des gazons glissants qui s'éboulaient par grosses mottes. Mais on l'a fait, rien ne nous a coûté, parce que le démon nous tenait mordus. Et à la fin, sur une sorte de replat, et comme une terrasse sans pente, sans plus point d'herbe, et où le roc était à vif et fissuré, il s'interrompait. Et peut-être, si l'on eût bien regardé, qu'on eût vu briller encore ses yeux. La baguette file droit vers en bas, et heureusement que je la tenais bien, sans quoi elle m'aurait échappé tellement la secousse avait été forte. Comme quand la truite donne un coup de queue. On était devenu tout pâle. On a eu le souffle coupé. En même temps, on se regardait et on n'osait pas se regarder. Je ne sais plus l'heure qu'il était. Le temps n'a plus rien été pour moi qui dévorait, sans en sentir le goût, le peu de jours qui nous sont donnés. Il me fallait me cacher des hommes et mentir. Et aussi, comme le chemin du pierrier était trop long et fatigant, je me laissais descendre dans les rochers à une corde. C'était mon frère et moi qui l'avions installé. Et une fois mon travail fini et moi remonté, je la retirais. Je travaillais tout nu comme ceux qui sont aux galères, sans point d'eau que celle que j'apportais dans un tonnelet, sans rien autre chose qu'un peu d'eau, un peu de pain, un peu de fromage, du matin au soir. Depuis très bonne heure le matin jusque tard le soir, tout nu, exposé tour à tour au grand soleil, aux longues pluies et à l'orage. Point d'autres outils qu'un pic et une pelle, creusant d'abord avec le pic, puis en levant les débris à la pelle. Toujours tout seul, personne à qui parler, et rien d'autre pour me distraire que ce trou sous mes pieds, où je m'enfonçais toujours plus. Je sentais couler le long de moi l'eau de mon corps, comme si elle était tombée du ciel, et je pleuvais, et je tachais de noir la roche. Indifférent à cette pluie, et à toute pluie, indifférent, je dis, au monde, et à toutes les bonnes et belles choses du monde, et à tout ce qui était vrai. J'étais ainsi arrivé au troisième mètre, sans avoir rien trouvé encore. Mon frère me disait « Alors ?» Je disais « Rien. » J'avais terriblement maigri. Et de nouveau mon frère « Alors ?» Et moi, de nouveau, rien. Mais à présent, je voyais qu'il me regardait avec méfiance. Et ça a été ainsi encore un bout de temps. Puis, voilà qu'une fois que j'étais en train de me reposer, assis à côté de mon trou, j'ai entendu rouler des pierres. C'était mon frère qui m'épiait, s'étant posté un peu plus haut dans la paroi.